Chapitre 12. L'été touchait à sa fin. Depuis longtemps, les 2000 francs prêtés par Charles avaient fondu. Chaque fois qu'il se trouvait démuni, les aftalions disaient « Ce que nous avons était bête, nous aurions mieux fait de dépenser cet argent autrement. » Et ils énuméraient les divers emplois qu'ils eussent pu lui donner et auxquels ils n'avaient point pensé sur le moment. À la longue, il s'était habitué à ses hauts et à ses bas. Comme cela avait toujours alterné avec ceci, il leur semblait, quand ils traversaient une mauvaise période, que pour obéir à une sorte de loi de flux et de reflux, leur situation s'améliorerait infailliblement dans les jours qui suivraient. Cette confiance leur faisait porter allègrement les heures les plus pénibles. Pourtant, à chaque plongeon nouveau, c'était avec plus de difficulté qu'ils remontaient à la surface. Les moments de gêne duraient plus longtemps que par le passé. Leurs vêtements s'étaient usés. De l'aisance de jadis, Madame Aftalion ne possédait plus qu'un manteau de loutre au corps de murmel pour lequel on lui avait offert une somme si ridicule qu'elle avait juré de mourir de faim plutôt que de le vendre. Le bord des manches en était pelé. Elle le mettait par tous les temps, même lorsque le soleil dardait. Ainsi accoutrée, tenant à la main un sac dont la fermeture était cassée et qui s'ouvrait à chaque instant, chaussée de souliers craquelés, coiffée d'une toque qui, malgré le dégraissage, était tachée, elle faisait peine à voir. Seules ses mains étaient restées belles. Elle n'avait pu se décider à ne plus porter de bas de soie. Aussi, ceci était-il déchiré de toutes parts, si bien que lorsqu'il recouvrait ses jambes, on apercevait aux endroits où les mailles avaient été reprisées de longues traînées de fils plus épais. Nicolas, lui, avait encore deux complets qu'il portait alternativement. Il les brossait et les rangeait chaque soir. Aussi l'usure contrastait-elle avec les plis qui leur donnaient un faux aspect neuf. Il était encore chaussé de ces mêmes bottines qu'il avait portées à Nice. La mode avait alors été aux tiges de daim clair. À la lisière du cuir, elles étaient noircies par le cirage. Avant d'endosser son veston, Nicolas était obligé de retrousser les manches de sa chemise, qui était élimée, et de porter son chapeau de feutre, tellement amolli par les pluies, les bords baissés à la manière d'un casque colonial. Les Aftalions avaient beau chercher dans leur mémoire où emprunter, ils ne trouvaient plus personne. Ils devaient de l'argent à tout le monde. Le propriétaire de l'hôtel Excelsior commençait à s'impatienter. Quand la mère et le fils passaient devant son bureau, il ne les saluait même plus. À tous leurs créanciers, les Aftalions laissaient entendre que leur gêne était momentané, qu'ils attendaient une somme importante. L'espoir d'une fortune, tombant miraculeusement entre leurs mains, les avait longtemps bercés tant il leur avait semblé impossible qu'ils eussent pu se trouver dénués de tout. Mais à présent, la raison se faisait peu à peu un chemin en leur esprit. « Réfléchis, disait Louise à son fils, d'où veux-tu qu'elle vienne, cette fortune ? Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. » Pourtant, malgré ces paroles sensées, les Aftalions s'imaginaient encore, à certains moments, qu'un événement imprévu allait les tirer de leur déchéance. « Si on pouvait trouver 10 000 francs, nous serions sauvés, » répétait chaque jour Nicolas. « C'est 15 000 qu'il nous faudrait, » répondait sa mère. Et tous deux cherchaient alors, durant des heures, la somme exacte qui leur était nécessaire. À la fin de septembre, les Aftalions eurent une altercation violente avec le propriétaire de l'hôtel. La veille, Nicolas avait reçu deux lettres où on lui réclamait de l'argent. Il faisait encore une chaleur étouffante dans le jour, mais les soirées étaient fraîches. On sentait que c'étaient les derniers beaux jours. En plein midi, alors que l'air était irrespirable, des bouffées d'air froid caressaient tout à coup les visages. « Nicolas, je t'en supplie, il faut absolument que tu trouves de l'argent. »« Mais où, maman ?»« N'importe où, je ne sais pas. Il faut, qu'est-ce que tu veux ? Il le faut absolument, absolument, absolument. Si tu ne les trouves pas, je les trouverai. Je vendrai tout, tout ce qui est ici. » « On t'en donnera 100 francs. »« 100 francs ? » ?»« Même pas. » Les yeux agrandis par la stupeur, Louise regarda son fils. « Tu es fou ! Cette robe, sais-tu combien elle a coûté ?» Elle s'interrompit, ouvrit l'armoire dont seul un rayon, celui se trouvant à la hauteur de sa poitrine, était encombré d'objets. « Mais alors, Nicolas ! » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Si j'étais un homme, il me semble que je saurais quoi faire. Quoi faire? J'irais partout, je supplierais et on me donnerait. On ne te donnerait rien du tout. Tu n'as pas d'amis, tu ne connais personne. Nicolas réfléchit une seconde et soudain se souvint d'un certain Morachini auquel il avait souvent parlé au Monaco et qui lui avait paru avoir beaucoup de sympathie pour lui. « Demain, j'irai voir quelqu'un. »« Pas demain, tout de suite. » À midi, Nicolas arriva rue Bleue au petit hôtel confortable et discret qu'habitait Morachini. Ce dernier était le fils de restaurateur toulonnais. À 17 ans, à la suite d'une soirée mouvementée passée dans différents cafés de Toulon, il avait à demi assommé un sergent de ville. Condamné à 2 ans de prison, il avait pu obtenir, parce qu'on était en ce moment en guerre, sa libération à la condition qu'il s'engagea. Affecté à un bataillon d'Afrique, il fut incorporé au fort Saint-Jean de Marseille. Il n'avait pas le droit de sortir. Un soir, il escalada les remparts et, durant 7 jours, vécut dans les maisons publiques du Vieux-Port. Porté déserteur, il fut arrêté comme il sortait d'un estaminet. Condamné de nouveau, il demanda, pour ne pas purger sa peine, à monter au front. 15 jours après, sans savoir lancer une grenade ni se servir d'un chargeur, il était en première ligne dans une compagnie de discipline. 2 années durant, il vécut dans un cauchemar, ivre tous les soirs, assistant chaque jour à la mort d'un ou plusieurs camarades. Il chantait pourtant, répandait autour de lui la bonne humeur. À l'aube, il lui semblait que le soir ne viendrait jamais. À certains moments, la nostalgie de Toulon le prenait. Il aurait voulu partir, déserter de nouveau et revoir le port, les barques, la mer. Un soldat l'appelait-il alors que, d'un seul coup, il oubliait tout et accourait. Il ne pensait pas à éviter le danger. Quand il s'aplatissait contre terre, c'était comme dans une bataille de boules de neige. Jamais les conséquences des blessures ne lui apparaissaient. Il avait l'impression que, si la terre dans laquelle il vivait venait à être bouleversée par quelque formidable explosion, seul, il se relèverait après, dans le silence, intact. Mais en mars 1918, il fut pris par les gaz. Pendant 2 ans, il vécut comme un convalescent chez ses parents, puis il vint à Paris. Au changement de saison, de violentes quintes de toux le tenaient éveillé des nuits entières. Il lui semblait alors qu'il avait étouffé, que c'était fini. Un médecin avait dit à son père qu'il n'avait pas plus de 5 ans encore à vivre. Devant ce jeune homme condamné qui riait, se couchait à l'aube, que font ceux dont l'existence est si calme qu'ils semblent déjà ne plus être, tant ils sont pareils le jour de leur mort, à ce qu'ils sont aujourd'hui. La maladie n'était pour lui qu'un frein, comme jadis la prison et l'armée, duquel il ne songeait qu'à se libérer. Il a haïssé, ainsi qu'il avait haï, tout ce qui s'était opposé à ses élans. Aucune amertume ne l'avait envahi. De toutes ses forces, il se raidissait contre le mal, tant son désir de vivre était grand. Il était dur envers lui-même. Lorsque les quintes de toux le prenaient, il s'en voulait avec colère, comme s'il en était responsable, et n'entrait même pas dans des crises de désespoir, tellement il s'appliquait à ignorer son mal. Il buvait de plus en plus, fréquentait des filles, vivait d'expédients, dormait le jour. Quand un de ses camarades lui faisait des reproches, il répondait brutalement « Si je dois laisser mes os, je les laisserai, mais je veux vivre. » Il se plaçait sur le même plan que tous les hommes forts et sains, voulait les imiter et ne les enviait pas. Qu'il eût appris qu'il inspirait à quelqu'un de la pitié, l'eût mis dans une colère folle. Pourtant, à son insu, le mal avait fait qu'il ne pouvait rester seul, par peur du cafard, disait-il. Le soir, quand personne ne se trouvait près de lui, on eût dit un enfant perdu. Il devenait doux, sursautait aux détonations de la rue qui lui rappelaient la guerre, jetait des regards désespérés sur les gens qu'il ne connaissait pas. Le mal qu'il rongeait lui apparaissait alors. Il avait l'impression qu'il gagnait sa poitrine tout entière jusqu'aux épaules. Il tremblait alors de frayeur. La nuit lui semblait interminable. Dans la fièvre qui l'envahissait, elle était pareille à la mort. Le lever du jour était une véritable délivrance. Aussi avait-il des amis partout. Quand il s'absentait pour acheter des cigarettes, il fallait qu'on l'accompagnât. Ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était de se trouver seul dans sa chambre. Aussi vivait-il à présent avec une certaine Clo-Clo qui se disait artiste lyrique. Malgré ses apparences d'aventurier, que lui donnaient ses complets aux couleurs criardes, ses foulards, ses guêtres, ses casquettes neuves, quelque chose d'enfantin en lui prêtait à sourire. Sous l'affectation de paraître dénué de scrupules, prêt à tout pour satisfaire ses besoins, on devinait sa naïveté. Lorsque Nicolas entra dans la chambre de Morachini, celui-ci était encore couché. Sa maîtresse, à côté de lui, se cacha sous les draps. La pièce était en désordre. Les rideaux tirés ne laissaient pas pénétrer la lumière du jour. Il s'assit sur le lit. Son visage était pâle, ses cheveux défaits. Il semblait étourdi et ne pas se rendre exactement compte de l'endroit où il se trouvait. Une quinte de toux le secoua. Il se leva, ouvrit la fenêtre et, appuyé sur la barre d'appui, resta un long moment au soleil. « Quelle heure est-il ? » demanda-t-il à Clo-Clo.
« Tu as ouvert ?»«
Je te demande l'heure, moi. »«
Et moi, je te demande si tu as ouvert. »
Morachini et sa maîtresse semblaient ignorer la présence de Nicolas. Cela leur arrivait d'ailleurs assez souvent de se parler grossièrement, de s'insulter même devant une tierce personne. Aucune pudeur ne les retenait. Ils s'embrassaient ou se disputaient n'importe où. Une fois même, elle lui avait reproché devant des enfants de vivre de l'argent des femmes. Furieux, il l'avait frappée. Elle s'était défendue. La scène avait dégénéré en bataille, si bien que des étrangers avaient dû intervenir, les maîtriser et les séparer de force. Pourtant, conduits chacun dans une direction opposée, ils avaient continué de loin à s'injurier. La lumière du jour pénétrait maintenant dans la pièce, dont les murs étaient tapissés d'un papier tenture violet à ramages dorés. Un tapis de feutre clair recouvrait le parquet tout entier. La porte du cabinet de toilette était entrebâillée.
« Tu viens un peu tôt, mon vieux. »«
Qui c'est ?»
demanda Clo-Clo, toujours caché sous les draps.
« Un camarade. »
Fred ?
Nicolas.
Ne connais pas.
Quand on vient chez les gens à midi, on les prévient. À ce moment, Clo-Clo émergea des couvertures. Son visage était luisant de crème, les coins de ses yeux tachés par des traînées de colle, ses cheveux courts, pêle-mêle, comme ceux d'un garçon.
Maura, donne-moi la glace. Ne me regardez pas, monsieur.
La présence de cette femme qu'il ne connaissait pas gênait Nicolas. Il n'osait plus demander l'argent à Morachini, avec lequel, d'ailleurs, il ne s'était jamais longuement entretenu.
« Qu'est-ce qu'il y a de neuf ?» fit ce dernier, comme si, la veille, il avait rencontré le jeune homme. Il en était ainsi tout le temps. La peur qu'il avait de la solitude faisait qu'il ménageait les gens, aussi indifférents lui fussent-ils. Il prodiguait des marques d'amitié à n'importe qui. Se trouvait-il en présence d'un camarade perdu de vue depuis des mois, qu'il s'adressait à lui comme si, 24 heures auparavant, il avait passé la soirée en sa compagnie. L'apparence d'activité qui se dégageait de lui impressionnait Nicolas. Sa vie semblait toujours comme tracée d'avance, même quand il ne savait à quoi employer son temps. Ses occupations, qui chez d'autres eussent paru celles d'un désœuvré, paraissaient chez Morachini celles d'un homme très pris. Alors que Nicolas disait « Je me promène », lui s'exprimait ainsi « Je vais à pied jusqu'à l'opéra et je reviens. » De nouveau, il se mit à tousser. Soudain, il eut un vertige qu'il voulut dissimuler. Il se laissa tomber dans un petit fauteuil d'étoffe moderne assorti au papier tenture. Sa quinte se prolongeant, Clo-Clo se leva et le frappa dans le dos. Comme cela ne l'apaisait pas, elle alla chercher un verre d'eau.
« Bois lentement !»
Elle soignait son mal comme on soigne le hoquet. Il repoussa le verre. Soudain, sa toux s'arrêta. Il n'osait bouger de peur qu'elle recommençât, respirait à peine, ne baissait même pas les paupières, bien que des larmes coulassent sur ses joues. Sa poitrine se soulevait comme s'il venait de courir. À la fin, il dit avec colère
« C'est tous les matins la même chose. »«
Tu devrais aller voir un docteur, » observa Clo-Clo.
« J'en ai vu 36. Il n'y a rien à faire. Ce sont les gaz. »
Puis il se tut. Petit à petit, sa respiration redevenait régulière. Les yeux levés, il regarda durant quelques secondes le petit lustre de cristal. Tout à coup, comme si personne ne se trouvait près de lui, il frappa à plusieurs reprises sa poitrine du poing.
On lisait sur son visage toutes ses pensées qu'il ne se donnait plus la peine de dissimuler. On comprenait qu'il voulait voir si les coups lui faisaient mal. Il ne sentit rien. Alors il se serra la gorge comme s'il eût tenté de s'étrangler. Depuis qu'il avait été gazé, c'était un besoin chez lui de simuler un étouffement. Puis, en se frottant les mains avec la pensée inconsciente qu'il n'avait plus besoin d'elle, il dit brusquement « C'est idiot d'être malade comme cela !» Et puis, ne parlons plus de cela. « Alors, mon vieux, qu'est-ce que tu me veux ?» Nicolas sentit que Morachini cherchait à ne plus penser à sa maladie, qu'il serait même content qu'il lui demandât un service pour sortir de cette peur de mourir dans laquelle il se trouvait tant qu'il n'était pas habillé. Aussi, profitant que Clo-Clo s'était enfermé dans le cabinet de toilette, Nicolas n'eut-il aucun remords de dire « Peux-tu me prêter un peu d'argent ?»«
Combien ?»«
Le plus que tu pourras. »«
200.
Mais tais-toi !» Et il désigna le cabinet de toilette.